Chapitre 53. La peur. L'un des plus vieux instincts communs à toutes les espèces animales. La peur pouvait pétrifier, décupler les forces, sauver une vie, rendre fou. Elle consumait Franck Charcot dans un feu intérieur, le dévitalisait. Il allait mourir. Lui, un jeune homme de 30 ans, débordant d'énergie, d'envie, de projet. On s'apprêtait à le rayer de la surface de la Terre. Pire, à le piéger dans un univers de ténèbres, où la mort n'était qu'un début, à faire de lui un mort-vivant. Enfermé dans sa caisse à l'arrière d'une probable camionnette, il sentit une larme se répandre à la surface de son cristallin. Il pensait surtout à Suzanne, à sa souffrance lorsqu'elle se retrouverait face à des flics qui, un de ces matins, lui annonceraient la terrible nouvelle. Ses yeux paralysés, humides de sel, étaient devenus une source de douleur abominable. Il peinait désormais à respirer. Une enclume invisible lui écrasait la gorge et n'était plus certain d'entendre son cœur battre. Où l'emmenait-on? Allait-on l'enterrer dans les profondeurs d'une forêt et le laisser s'asphyxier? Le jeter à l'eau? Le zombifier pour ensuite l'abandonner au milieu d'un champ à moitié nu, dans la boue et le froid? Il voulait en finir, là, maintenant, et vite. Mais ça n'arriverait pas, parce qu'en finir était l'option la plus douce et que ces gens-là se complaisaient dans la barbarie. « Je vais te voler ton âme. » Franck était incapable de bouger. Il ne pouvait pas non plus empêcher un flux d'images insupportables de lui traverser l'esprit. Il voyait une scie lui fendre le crâne en deux, des pinces lui découper des morceaux de cerveau, alors qu'il avait conscience de tout. Il ne fallait pas sous-estimer une femme qui enfonçait un mamba noir dans la gorge d'un homme. Un brusque virage. Sa tempe droite cognant contre le bois, des craquements de gravier sous les roues, l'arrêt du moteur. Puis le coulissement de la porte sur son rail métallique. Combien de temps avait-il roulé? Une heure? Il sentit la caisse se mettre en mouvement, vit après quelques instants des raies de lumière jaune, puis rouge sang, qui s'infiltraient entre les planches. Une soudaine inclinaison. Des marches. Les angles du cercueil qui butaient contre les murs, et toujours ces voix qui grognaient, ce langage de rue qu'il ne comprenait pas. À l'évidence, les sous-fifres au service de la sorcière vaudou. On le déposa enfin, puis on retira le couvercle de sa prison. La pénombre. Des gloussements lugubres de volailles. Une odeur de plumes, de terre, de briques humides mêlées à l'encens. Les flammes des bougies dansaient par centaines dans son champ de vision, comme des yeux curieux l'observant, sur des autels où s'empilaient des rangées de crânes tronqués au niveau de la mâchoire supérieure. À côté, un courant d'air s'engouffrait dans des tentures bleues, rouges, noires, qui oscillaient telles des capes. Dans des cages suspendues, des canaris bondissaient de perchoir en perchoir. Les geôliers des âmes damnées. Le silence. Les jeunes étaient repartis. Quelque part au loin, Franck entendit leur rire. Oui, ces salopards riaient. Ils avaient certainement ri aussi quand Delphine Escrémieux avait subi le même sort. Franck devait être enfermé dans une cave, sûrement en banlieue, dans un endroit où on pratiquait des rituels sanglants et des sacrifices. Subitement, la Beaucor apparut. Une sorte de pâte claire séchée formait un H lugubre sur son visage. Elle portait un collier d'os et de plumes. De grosses bagues luisaient à chacun de ses doigts. « Tu n'es pas encore tout à fait mort, mais plus tout à fait vivant non plus. » Elle lui souleva le bras, le relâcha. Le membre retomba, et Franck cligna une fois des paupières au moment de l'impact. « Ah, je vois que ça commence à réagir. » Ce sont toujours les réflexes qui reviennent en premier. Tu retrouverais toutes tes sensations bientôt si on s'arrêtait là, tous les deux. La poudre qui est entrée en toi ne contenait qu'une infime partie de poison. Elle n'était qu'un avant-goût de l'enfer qui t'attend. D'ordinaire, on s'en sert pour donner des avertissements aux ennemis. Elle lui montra une feuille de carnet chiffonnée. Charcot reconnut son écriture. C'était le papier qu'il avait remis à Scotty pour qu'il puisse le joindre. Faut pas laisser traîner ce genre d'infos, sale flic. Ça peut jouer des tours. » Elle se rapprocha de lui, très près, le gouffre de sa bouche, le rempart hostile de ses dents blanches. « La deuxième étape, c'est la vraie poudre zombie. Ça va être beaucoup plus puissant et surtout irréversible. Elle va doucement stopper ton cœur, puis, si tout se passe comme prévu, il repartira au bout de quelques minutes. Avec un peu de chance, tu mourras. Sinon, tu te réveilleras paralysé, cloîtré dans ta caisse, environné d'une nuit noire sous la terre, et plus vraiment toi-même. Quand quand on te sortira de là d'ici 2 jours, tu ne seras plus rien. » Elle se recula. Il perçut son souffle toujours à proximité. D'abord la toute petite incision. Franck ressentit une pointe de douleur dans la paume de sa main droite. La Bocor releva la lame au fil couvert de sang et s'éloigna. Tintement de verre, froissement d'ailes, bruit d'objets qu'on déplace. Une poule gloussa. Charco se concentrait, mobilisait toute sa volonté pour crier aussi fort que possible, mais sa gorge n'émit rien d'autre qu'un râle imperceptible. Du temps. Il lui fallait encore du temps. Chaque fibre musculaire luttait contre les effets du poison. C'était infime, pourtant la chaleur revenait dans ses doigts, sa chair. Mais la sorcière était déjà là, prête à l'entraîner dans les limbes. Elle lui présenta un tube gradué contenant une insignifiante quantité de poudre grisâtre. Franck fit une dernière tentative. Ses cordes vocales ne répondaient pas. Pas assez pour que les lettres se forment entre la langue et le palais. Alors il le pensa juste, de toutes ses forces. « Pitié !» La Bocor tressaillit soudain. Quelque part, il y eut un fracas, des éclats de voix, suivis d'échanges de coups de feu. Dans le brouhaha ininterrompu, la femme disparut de la vue de Charco. Des pas résonnèrent au-dessus. 1 minute plus tard, des halètements, des cliquetis d'armes, une voix dure, autoritaire, puis un visage. Serge. Un ressac de chaleur envahit le ventre de Franck. Des uniformes bleus nuit circulaires, une ronde improbable qui lui semblait surgir du ciel. Les gars de la BRI se déversaient dans la cave. Amandier se pencha et posa 2 doigts au niveau de sa gorge. « Il est en vie !» Il releva aussitôt la tête. « Où est passée la sorcière ? On est dans une cave, bordel, elle a pas pu se tirer ! Retrouvez-la !» Charco n'arrivait pas à croire à ce qui était en train de se produire. Il se concentra et lâcha une longue expiration, qui se termina dans un microscopique mouvement de lèvres. L'esquisse d'un sourire.